Alors bonjour frères et sœurs, et bon sabbat. Pendant la fête des pains sans levain, ma famille et moi ont eu l'occasion de rendre visite à nos frères et sœurs en Martinique. La beauté de l'île est vraiment impressionnante. Pendant notre séjour, un phénomène naturel très rare était en train de se passer. Ce phénomène s'appelle le tombolo. Comme moi, vous ne connaissez peut-être pas déjà le tombolo. Qu'est-ce que c'est qu'un tombolo? En fait, sur la côte est de la Martinique, la côte atlantique, il y a des îlets et des péninsules et des anses de toutes sortes de variétés, en fait. Il y a toutes sortes d'endroits où on peut aller à la mer, se baigner, et en voyant de pas très loin des petites îlets qui sont pas très éloignées de la côte. Dans un endroit très particulier, où les courants de la mer sont très puissants, se forme une fois par an un tombolo. En fait, le tombolo, c'est un pont de sable qui se forme petit à petit avec un changement des courants dans la mer. Ce pont se forme progressivement quand la turbulence des courants est telle que le sable qui est normalement suspendu dans l'eau précipite dans un endroit particulier. Donc, grain par grain, le sable s'accumule petit à petit et on voit petit à petit un pont de sable qui vient de l'eau et en fait qui existe là où l'eau devrait normalement circuler. Ce pont s'appelle le tombolo. Et il est là que pendant un mois ou deux, on peut traverser ce pont pour arriver à l'îlet Sainte-Marie, juste à côté. Donc pendant cette période très courte, on peut marcher de la plage devant la ville de Sainte-Marie jusqu'à l'îlet Sainte-Marie. Et puis au mois d'avril, les courants enlèvent ce qu'ils ont déposé. Et ça veut dire que le tombolo, petit à petit, disparaît. C'est un cycle annuel, quelque chose qui se passe tous les ans en Martinique. Et en fait, les frères et sœurs m'ont dit que ce phénomène est très rare dans le monde entier. En fait, nous avons bien sûr pensé, pendant notre traversée du pont de sable, du tombolo, nous avons pensé aux enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte en traversant à pied un endroit sec où normalement il y avait de l'eau qui circulait. Ça nous a fait penser à Exode chapitre 14 et c'est dans ce chapitre que je voudrais commencer aujourd'hui. Exode chapitre 14 et le verset 21. Reportons-nous ensemble pour voir la traversée du peuple d'Israël. Exode 14 et le verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Pour les enfants d'Israël, bien sûr, frères et sœurs, ce miracle fut très important. L'Éternel donna à son peuple une issue de secours. En même temps, il a détruit l'armée égyptienne qui les poursuivait. Continuons maintenant avec le verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Tous les ans, nous observons, frères et sœurs, la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, nous observons cette fête. Nous venons de passer 7 jours sans avoir le levain dans nos domiciles, sans manger le levain, et se pratique d'enlever le levain et de garder le levain hors de nos vies est ordonné par l'Éternel, même pour les chrétiens d'aujourd'hui, afin de nous rappeler d'une certaine chose, afin de nous rappeler qu'il faut toujours éliminer le péché de nos vies en le remplaçant par le pain sans levain de la justice, de la sincérité, de la pureté que nous apprenons de la parole de Dieu. Nous remplaçons le pain levé avec ce pain non levé, ce pain sans levain qui apporte beaucoup de valeur dans nos vies spirituelles. Donc, tous les ans, nous observons cette fête, nous faisons ces pratiques, et Dieu, en fait, est en train de nous rappeler de ces leçons. Et après les jours de pain sans levain, en fait, c'est comme le tombolo, les 7 jours disparaissent, nous les voyons plus, mais en fait, leur souvenir, nous gardons le souvenir de ces jours en tête et en cœur pour toute l'année à venir. Nous avons eu la possibilité d'avoir une nouvelle perspective parce que nous avons pu traverser ce jour ou ces 7 jours de pain sans levain. Les 7 jours de la fête des pains sans levain sont bien signifiants. Le chiffre 7 dans la Bible est souvent associé avec l'achèvement ou la perfection. Et les 7 jours de la fête des pains sans levain nous rappellent que Dieu est en train de nous perfectionner. Il est en train de nous perfectionner, de nous préparer pour un rôle dans son royaume dans l'avenir, au retour de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, un verset qui nous encourage de ne jamais s'arrêter, de ne jamais oublier cette idée de progression, de croissance, de perfectionnement qui, en fait, est en train de se faire le long de nos vies sur la terre, mais qui est aussi pour nous préparer pour ce rôle à venir. Donc, Hébreux chapitre 6 et le verset 1. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Et bien sûr, ce leçon est important pour toute l'année. Sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Si Dieu le permet, nous allons être perfectionnés. Nous allons devenir parfaits un jour, mais c'est avec l'aide de Dieu. Sans l'aide, sans l'intervention de Dieu, cela n'est pas possible. La voix de l'homme est contre la voix de Dieu. L'homme a déjà fait son choix. Adam et Ève ont fait le choix de faire ce qui semblait correct à ses yeux, à leurs yeux. Et la voix de l'homme aujourd'hui est beaucoup pareille, est très similaire. Parce que la voix de l'homme va contre la foi, va contre le fondement du renoncement aux œuvres mortes, contre les doctrines fondamentales de l'Église. La version Roi Jacques ici, de ce verset 1, en fait, est un peu plus clair en anglais parce que ce n'est pas le but de l'auteur de l'Épître aux Hébreux d'abandonner ces doctrines. C'est en fait une discussion qui se passe ici et avec ce fondement de ces doctrines fondamentaux, nous pouvons construire un certain perfectionnement. Nous pouvons tendre à ce qui est parfait. Et c'est ça notre objectif. Et nous avons ce rappel des pains sans levain tous les ans de toujours tendre vers ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Rien n'est parfait dans ce monde, bien sûr. Qu'est-ce qui est vraiment parfait? Est-ce que c'est chez les hommes que nous trouvons l'exemple de la perfection? Est-ce que c'est dans ce que nous voyons avec nos yeux? C'est quoi notre exemple? En fait, Jésus nous instruit sur ce point que c'est Dieu le Père qui devrait nous servir comme exemple de la perfection, le but, l'exemple ultime de la perfection. Reportons-nous au Sermon sur la montagne, chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, Matthieu, chapitre 5, et à la fin de ce chapitre, qui est le premier chapitre de ce que nous appelons le Sermon sur la montagne, Jésus est en train de nous donner, de nous expliquer cet exemple et aussi de nous exhorter de continuer vers la perfection. C'est quand même un but assez élevé, n'est-ce pas? C'est quand même, si nous allons devenir parfaits, des fois nous nous rendons compte que moi je suis très loin d'être parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir parfait? En fait, quel est le cheminement pour me parvenir au perfectionnement? Matthieu chapitre 5 et le verset 48. Soyez donc parfaits. Ce sont les mots, les paroles de Jésus-Christ. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Comme votre Père céleste, pas comme les hommes, pas comme ceux qui nous sommes considérés aujourd'hui importants, mais comme le Père céleste. Et bien sûr, Jésus-Christ a suivi parfaitement l'exemple de son Père. Il a parfaitement suivi cet exemple et il n'a pas trébuché, si vous voulez. Il a suivi parfaitement cet exemple du Père. Donc, nous avons à la fois le Père céleste et aussi celui qui est venu pour nous montrer ou pour nous instruire sur le Père céleste. C'est Jésus. Nous avons son exemple, bien sûr, aussi, qui est l'exemple égal à la perfection. Donc, l'explication de ce verset est très simple. Mais avons-nous réellement ceci comme but pour notre développement spirituel dans la vie? Nous efforçons-nous d'imiter notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ? Voilà notre tâche à accomplir. Soyons donc parfaits. Déjà, nous nous rendons compte que cette tâche sera impossible sans l'aide de Dieu, sans l'aide de celui qui nous a créés. Philippiens chapitre 1, parlons encore de la perfection ici. Après le ministère de Jésus, l'apôtre Paul a continué à encourager, à exhorter les frères et sœurs de l'Église du Nouveau Testament à tendre vers la perfection. Mais il a aussi, en même temps, souligné quelque chose de très, très important, notre besoin de l'aide de Jésus-Christ, de l'aide de Dieu. Philippiens chapitre 1 et le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc si Dieu a commencé quelque chose, son effort, son plan a achevé cette chose, cette œuvre, dans ce cas-là, ne sera pas détourné de son but ultime. Toutes choses que Dieu entreprend sont achevées et achevées parfaitement. C'est pour ça que Paul peut écrire ici qu'il est sûr ou il est persuadé. Il n'y a pas de doute que Dieu va accomplir ce qu'il a commencé. Et qu'est-ce qu'il a commencé? Il a commencé à comprendre, à révéler son plan, à œuvrer en nous et à nous rendre parfaits. Mais petit à petit, il y a un cheminement à suivre, un processus à suivre. Donc nous sommes conscients de notre rôle, mais nous sommes également reconnaissants, bien sûr, qu'il faut l'aide de Dieu. Et je trouve intéressant que ici, quand Paul a écrit aux Philippiens, il a mentionné même le retour de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? C'est la résurrection des saints, n'est-ce pas? La résurrection des saints et le changement dont parle Paul dans ce que nous appelons le chapitre de la résurrection, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. C'est ce moment-là que ce plan de créer les prémices sera accompli ou achevé. Bien sûr, il y a d'autres phases, d'autres éléments de ce plan, mais cette partie-là sera accomplie au retour de Jésus-Christ. Donc, afin de participer à la transformation qu'il nous faut et qui nous attend au retour de Jésus-Christ, nous sommes tâchés dès maintenant de commencer à changer. Commencer à changer. D'habitude, l'homme n'aime pas le changement, n'est-ce pas? On résiste au changement, on veut rester dans nos habitudes, n'est-ce pas? On dit, Dieu ne m'a pas appelé au changement. Il m'a appelé tout comme je suis, donc je peux rester comme je suis et Dieu m'aime toujours. C'est vrai que Dieu nous aime, mais il nous a appelé à un changement, n'est-ce pas? Je ne suis point obligé de changer, c'est ça la philosophie de l'homme. L'homme veut rester comme il est. Le problème avec cette philosophie, c'est que ce n'est pas biblique du tout, en fait. C'est facile à comprendre, facile à faire, ne pas changer, c'est facile, mais ce n'est pas biblique, n'est-ce pas, frères et sœurs? Prenons l'exemple du serment sur la montagne. Avant ce verset que nous avons lu tout à l'heure, Jésus explique à ses disciples des changements révolutionnaires, des grands changements sur ce qu'il faut faire pour accomplir sa volonté. Le changement doit avoir lieu non pas seulement à notre extérieur, mais dans le fort intérieur de l'homme. Matthieu chapitre 5 et le verset 38. Matthieu 5 et le verset 38. Encore une fois, ce sont des grands changements dont parle Jésus dans ce serment sur la montagne. Le verset 38, Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, bon, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et puis priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aujourd'hui, le monde ne reconnaît pas le plan magistral de Dieu. Même ceux qui s'appellent chrétiens disent souvent que le changement n'est pas important aux yeux de Dieu. Je vois plutôt le contraire. Dieu est vraiment intéressé par le changement en nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il est en train de dire à ses disciples, Jésus est en train de dire qu'il faut changer. Il ne faut pas rester dans ses propres mœurs, dans ses propres habitudes, il faut suivre la voie de Dieu, les commandements de Dieu, la loi de Dieu, qui est parfaite. Jean chapitre 14, nous ne sommes pas obligés d'y aller, de nous reporter, mais au verset 15 de Jean chapitre 14, il est écrit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Gardez mes commandements. Le fait de garder les commandements de Dieu demande un changement chez nous, n'est-ce pas? Pour obéir à Dieu, il faut changer. Sinon, nous obéissons la chair, n'est-ce pas? Nous manifestons les œuvres de la chair si nous restons comme nous sommes. Nous restons comme nous sommes et il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de perfection en nous. La voie qui mène à la mort, c'est celle là qui dit que l'homme n'a rien à changer en lui. Le changement est souvent représenté de façon négative, mais le changement que Dieu attend de nous est un changement positif. La croissance, le développement, une tendance vers le perfectionnement. Ceci est vrai depuis le tout début, n'est-ce pas? Nous avons l'exemple d'Abraham. Genèse chapitre 12. Abraham est appelé de son pays. Et Dieu lui dit, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Toutes ces choses, toutes ces promesses demandent un changement. Un changement qui est perfectionné avec l'aide et par la puissance de Dieu. Non pas seulement notre volonté, mais l'aide de Dieu. L'Éternel a appelé Abraham au changement. Tout de suite, un changement majeur dans sa vie, en fait, pour souligner que lui aussi, il pouvait s'attendre à une vie de changement. Pas pour rien, pour un but particulier, un objectif précis. L'Éternel a fait sortir Abraham de son pays afin de préparer une place pour une nation entière et un jour, bon, une nation spirituelle. Abraham a connu une vie de changement. Nous avons donc déjà cité l'exemple des enfants d'Israël à la sortie d'Égypte en Exode. Et bien sûr, pour sortir d'Égypte, il fallait un grand changement. Ils se plaignaient, bien sûr, après, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans leur vie qui ont dû changer. Et ils n'étaient peut-être pas encore mûrs ou prêts pour vivre dans ce monde de changement, pour quitter leurs habitudes. C'était assez abrupt, n'est-ce pas? Assez abrupt, assez vite, assez dur, assez rude, ce changement de tout quitter avec les plaies autour et de sortir d'Égypte avec presque rien. Il fallait quand même un changement. Il fallait qu'ils mettent leur confiance en Dieu. Saül, qui est devenu Paul, est tombé aveugle lors de son appel divin. Il a fallu que Saül cesse de persécuter l'Église du Nouveau Testament. Il a fallu qu'il se présente devant les gens respectés du monde païen de son époque. Il a connu, bien sûr, Saül, qui est devenu Paul. Il a connu des difficultés lors de ses voyages pastoraux. Il a connu des difficultés, des épreuves associées avec ses efforts, avec ses plans d'accomplir la volonté de Dieu. Donc des fois quand nous décidons d'accomplir ce que Dieu nous a révélé, des fois ça importe des difficultés dans nos vies, n'est-ce pas? Pour Paul, il y a beaucoup d'exemples de ces difficultés. 2 Corinthiens chapitre 11 nous instruit sur quelques-uns de ces exemples. Peut-être il y en a d'autres, bien sûr. Mais Paul explique que sa vie n'était pas facile. C'était pas la vie dorée qu'on peut imaginer de quelqu'un qui ne voyait jamais de difficultés, qui vivait facilement, en douceur, et qui connaissait toujours la paix extérieure à lui. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique? 2 Corinthiens, chapitre 11, il nous explique qu'il y a eu, bien sûr, beaucoup de changements, beaucoup de difficultés dans sa vie. 2 Corinthiens 11, le verset 26 et 27, verset 26, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Certes, le changement n'est pas toujours agréable dans le moment. Le changement est parfois violent, parfois paisible aussi, mais parfois violent. Le peuple de Dieu connaît depuis des siècles, depuis toujours, les difficultés et les bénéfices associés avec le changement. Sortir du monde suivant l'appel de Dieu est vraiment un changement majeur dans sa vie. Mais Dieu voudrait que nous apprenions quelque chose de sa part. De ce départ des habitudes du monde, il veut nous instruire dans ses voies. Le changement nous permet de marcher en nouveauté de vie. Et c'est bien une des leçons des pains sans levain, de la fête des pains sans levain. Romains chapitre 6, Paul nous explique, Romains chapitre 6, que notre objectif n'est pas de continuer dans nos habitudes anciennes, mais de marcher en nouveauté de vie. Romains chapitre 6 et le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc notre engagement lors de la baptême, est un engagement à vie, et cet engagement représente une vie de changement. Une vie de changement. Il y a bien sûr des leçons de cette vie de changement. Je voudrais en résumer. Il y a plein de leçons qui existent, mais je voudrais aujourd'hui résumer trois grandes leçons d'une vie de changement. Trois leçons d'une vie de changement. Numéro 1. Il faut sortir du monde. Il faut sortir du monde. Le monde a été créé par Dieu. Nous observons de la gloire de Dieu dans sa création, la beauté et la complexité de la vie, la profondeur des océans, la hauteur des montagnes, la vaste étendue de l'univers, l'intensité de la liaison atomique. Par contre, le mal qui est très répandu dans le monde aujourd'hui, n'est pas de Dieu. C'est ça. Les systèmes qui ont été créés par les hommes ne sont pas globalement basés sur la parole de Dieu. Et ça nous explique, ça nous instruit qu'il faut un changement, qu'il faut sortir de ce monde qui n'est pas fondé sur la voie divine. 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 3. Il y a une puissance forte, importante derrière ce monde, une puissance qui influence ceux qui restent dans le monde, que ceux qui sont aveuglés aujourd'hui par la voie qui mène à la mort. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile et la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Encore une fois, Christ, Jésus-Christ, représente l'image de Dieu, représente la perfection, l'image de Dieu le Père. Continuons avec le verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Bien sûr, cette vie est une vie de changement. Ici, nous sommes encouragés que Dieu nous donne la force pour faire face au monde, pour faire face à toute difficulté qu'on peut rencontrer dans cette vie de changement. Mais c'est encore plus profond que ça, n'est-ce pas? Nous marchons dans un pays ou vers un pays nouveau en sortant du monde. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes pas basés dans le monde. Nous sommes des étrangers vis-à-vis du monde. Une fois que les changements commencent, nous ne pouvons plus intégrer au monde comme auparavant. Nous sommes déracinés par la vérité et par notre poursuite du royaume de Dieu. Nous suivons le bon exemple d'Abraham et d'autres, même ceux qui ne sont pas connus par leur nom, ceux qui n'ont pas poursuivi les habitudes de ce monde. Hébreux chapitre 11 est très encourageant pour nous qui sommes des pèlerins dans le monde. Nous ne sommes pas les seuls de vivre une vie de changement. Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi. Et bien sûr, ce sont des exemples de la foi qui nous inspirent, qui nous encouragent à tendre vers la perfection. Hébreux chapitre 11 et le verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est fascinant que Abraham et ses fils ont pu imaginer Non pas seulement ce qu'ils voyaient autour d'eux, mais ils ont pu imaginer ce que Dieu préparait pour eux. Et c'est la même chose qui nous prépare pour nous aussi. Le verset 13 continue, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. » Donc, cette idée de continuer jusqu'à la fin, de ne pas perdre la foi, toujours résister aux épreuves, et rester fidèle jusqu'à la mort, je continue, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et ce n'est pas fini, ça continue même plus loin que ces exemples que nous connaissons depuis la Bible, mais aussi très intéressant. Vers la fin de ce chapitre, nous avons les exemples des anonymes, des personnes non inconnues. Ce sont des personnes qui ont fait les mêmes types de choses. Ils ont exhibité, ils ont démontré leur foi, mais sans être reconnus, sans avoir la reconnaissance des autres. Et c'est ça, la vraie liberté de ce monde se trouve dans l'obéissance des commandements de Dieu. Même si nous ne sommes pas reconnu par le monde autour de nous. Et ces gens avaient confiance aux promesses de Dieu, même s'ils ont souffert. Je continue à partir du verset 35. Verset 35, « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. » afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés et moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui est leur était promis dans cette vie. Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvenisse pas sans nous à la perfection. Donc, nous allons tous arriver à la ligne d'arrivée en même temps, au retour de Jésus-Christ. C'est quand même fascinant que nous sommes tous engagés dans ce cheminement vers le royaume de Dieu. Mais pour rester sur la bonne voie, dans la bonne voie, il faut une vie de changement. Une vie de changement. Et je dirais encore changement durable, un changement qui va continuer, qui va rester jusqu'au retour de Jésus-Christ. Le point numéro 2, leçon de cette vie de changement, c'est l'homme ne considère que les choses physiques comme ayant beaucoup de valeur, alors que Dieu regarde au cœur. Nous pouvons voir beaucoup de changements à l'extérieur. Nous pouvons déménager, nous pouvons quitter notre pays. Mais qu'est-ce qui va avec nous quand nous déménageons? C'est notre intérieur. Le cœur se déplace toujours avec nous. Nous, en quittant le logement, nous ne quittons pas nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous avons toujours la même personne, le même personnage en nous qui, en fait, va avec nous. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est ça, c'est le cœur qu'il faut changer, même si les choses autour de nous changent aussi. Nous venons de voir que le monde autour de nous n'est pas de Dieu. En gros, le monde n'a pas les mêmes valeurs que Dieu. Et bien sûr, nous pouvons nous séparer de ce monde physiquement, mais il faut encore plus loin, tout comme le serment sur la montagne, il faut encore plus loin chercher un changement dans notre fort intérieur. Le monde est fondé sur des valeurs qui ont été inventées par l'homme suite au mauvais choix d'Adam et Ève. Dans un sermon récent, nous avons examiné la différence de comportement entre le roi Saül et le roi David. Voilà deux hommes qui avaient des valeurs différentes. L'un voulait obéir à Dieu et l'autre voulait faire ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas un changement à son intérieur. Quand David avait établi sa forteresse de Sion, il a été touché au cœur quand il a considéré que l'arche de l'Éternel était sous une tente, alors que lui-même il se logeait dans ses appartements luxueux. Ensuite, il a voulu bâtir une maison pour l'Éternel. C'est sa volonté qui était correcte. Non pas seulement les demeures splendides, mais l'intérieur qui était splendide aussi chez David. Un cœur pur. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, c'est une juxtaposition de ces deux idées. L'idée d'habitation magnifique et l'idée d'une certaine puissance de Dieu qui regarde sur le cœur. L'appréciation n'est pas sur les choses physiques, mais sur ce qui est spirituel. Et nous aussi, nous devrions suivre cet exemple. Actes chapitre 7 et le verset 46. Les Actes, chapitre 7 et le verset 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. « Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ?» La main de Dieu a tout fait, a fait toutes ces choses. Nous, en construisant des bâtiments, nous employons ce que Dieu a déjà créé comme matière de construction. Sommes-nous plus dévoués à tout ce qui est matériel dans ce monde ou aux aspects spirituels de la vie? Nous observons la création avec nos yeux, mais notre vision du royaume de Dieu est bien plus importante. Cherchons premièrement le royaume de Dieu, Matthieu 6, verset 33, et sa justice, et toutes les autres choses physiques dont nous avons besoin, nous seront données par Dieu. Le changement dans nos valeurs, dans nos priorités, fait partie de la vie chrétienne. Colossiens, chapitre 3, parle de l'homme nouveau. Paul, ici, écrit de l'homme nouveau. Un changement complet qui sera en fait achevé le jour du retour de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3 et le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. C'est un changement, n'est-ce pas? Renoncer à quelque chose, c'est changer. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, un grand changement dans la vie chrétienne. Mais c'est quand même pas complet, c'est pas fini en ce moment-là. Il faut que ça continue. Le verset 10, « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Et ça continue. Le renouvellement est un type de changement. Et le verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous ceci. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Il est intéressant que, ici, Paul a écrit l'idée de pardonner, de se pardonner les uns les autres, va directement en parallèle avec le nouveau commandement de Jésus, de « aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ». Et ici, on voit au verset 14 l'idée de la perfection. La charité, l'amour divin, n'est pas, est en fait une puissance de perfection. C'est notre but ultime, et c'est avec cette charité, avec cet amour, que Dieu travaille avec nous. Il œuvre en nous avec ce sentiment de charité, avec la charité, l'amour parfait. Dieu attend ce changement de valeur dans nos cœurs. Tout ce renoncement dont parle Paul a parlé, doit se passer en nous. Et Dieu regarde, il observe le changement, il fait le point il fait une inspection de nos cœurs pour voir, pour surveiller, pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Jérémie 17 et le verset 10 est un très beau verset qui nous explique cette idée. Dieu est conscient de ce qui se passe en nous. Il est conscient du changement ou du non-changement qui se passe en nous. Il n'est pas impressionné par notre déménagement physique. Il est impressionné, il est concerné par ce qui se passe en nous. Jérémie 17 et le verset 10. « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il est intéressant à moi que dans le même verset, le verset 10, nous avons l'idée des œuvres et l'idée du cœur pur, du cœur éprouvé par l'Éternel. Dieu met l'accent sur ce qui est spirituel, ce qui se passe en nous, et non pas ce qui se passe juste à l'extérieur. Troisième leçon et dernière leçon pour aujourd'hui, les épreuves comme la vie sont temporaires. Bon, s'il y a un changement qui se passe, si cette vie de changement est en continu, nous allons quand même, comme Paul, nous allons passer par des moments d'épreuve. Mais si nous considérons le fait que nous sommes toujours en train de changer, bon, nous considérons que les épreuves, même les épreuves les plus dures, vont avoir fin un jour. Même si ce n'est pas dans cette vie physique, toute chose, toute douleur, toute épreuve aura sa fin. Typiquement, quand on est jeune, on n'a pas une bonne idée de la courte durée de la vie. Une fois plus âgé, on a la tendance à s'accrocher à la vie, à compter ses jours. Souvent, on dit qu'on aimerait remonter dans le temps, chose impossible à faire. La vie de changement nous permet de mieux comprendre que même nos épreuves les plus dures cesseront un jour. Cette vie de courte durée devrait nous préparer pour le royaume de Dieu et la vie éternelle, sans fin. Aujourd'hui, le monde va en contresens à la vérité de Dieu, jusqu'au point que les jeunes semblent démotivés dans leur vie. D'après une étude récente, les jeunes d'aujourd'hui avancent de plus en plus lentement vers la responsabilité de l'âge d'adulte. Cette idée de maturation, de développement pour se préparer pour l'âge d'adulte va progressivement plus lentement. Je cite d'une étude, d'un article qui parle de cette étude. Comparé aux adolescents des années 70, 80 et 90, les adolescents d'aujourd'hui prennent plus de temps à s'engager dans les plaisirs et les responsabilités de l'âge d'adulte. Madame Jean Twenge, professeure de psychologie à l'Université de San Diego State aux États-Unis. L'année dernière, Madame Twenge a publié, ou c'était en 2017, une étude importante dans la revue du développement de l'enfant aux États-Unis. Et dans cette étude, il est mentionné, je cite, « La voie de développement a bien ralenti chez les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes de l'âge de 18 ans se comportent comme des enfants de l'âge de 15 ans se comportaient dans le passé. » Donc, dans le passé, un enfant de 15 ans se comportait tout comme un enfant de 18 ans aujourd'hui. C'est une sorte de régression, n'est-ce pas? Ces conclusions sont basées sur plusieurs sondages d'environ 8 millions d'adolescents pendant quelques décennies. Les tendances observées sont liées à la recherche de l'emploi, l'indépendance et d'autres facteurs qui indiquent un développement ralenti. Si on n'est pas en train de chercher son indépendance, c'est vu comme on n'est pas intéressé à devenir adulte. Les jeunes adultes figurent dans l'étude aussi, avec les mêmes tendances que les adolescents. Donc, en général, la société, d'après cette étude, permet aux adultes un comportement qui n'est pas au niveau de la maturité qui était la norme du passé. Il y a une certaine progression dans la vie qui devrait se passer, le passage d'un stade à l'autre. Pierre nous rappelle d'une progression à cibler dans la vie chrétienne. Et cette progression est liée, bien sûr, à une vie de changement. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 22. ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Cette idée que la vie même est comme l'herbe qui ne dure pas longtemps. Notre tâche n'est pas de rester dans un état d'immaturité, mais d'avancer dans la sagesse, le comportement étant un reflet de la sagesse qui se trouve à l'intérieur. Colossiens chapitre 4, en parlant de la sagesse, Paul écrit aux Colossiens par rapport à la sagesse, conduisez-vous avec sagesse. Colossiens chapitre 4 et le verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Rachetez le temps. Il est sage de racheter le temps, d'employer ou de profiter du temps que Dieu nous accorde. Verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La sagesse dans nos paroles, en fait, est un reflet de la sagesse à notre intérieur. Et cette idée de racheter le temps est associée avec la sagesse. Nous cherchons à gagner la sagesse, à augmenter la sagesse. Et bien sûr, comme Salomon a fait, il faut demander à Dieu à nous aider à devenir plus sage. Demandez non pas la sagesse du monde, mais la sagesse de l'Éternel. Voilà l'utilité des épreuves. Les épreuves sont là pour nous secourir un peu, ou beaucoup. Dieu nous permet de passer par des épreuves, car il y a un objectif. Cela fait partie de son plan pour chaque individu. Sommes-nous bénis avec des épreuves? Sommes-nous bénis avec des épreuves? Pour moi, ma famille a connu des épreuves dans l'année 2017. Dieu a intervenu pour nous dans nos épreuves les plus dures. Et nous sommes très reconnaissants. Nous avons appris des leçons en passant par ces épreuves. Une perspective nouvelle sur certains aspects de la vie. Qu'est-ce que vous avez appris de vos épreuves? Qu'apprenons-nous de nos épreuves dans cette vie de changement? Considérons l'exhortation de Jacques par rapport aux épreuves. Jacques chapitre 1 et le verset 2. Dieu a un but associé avec nos épreuves. Ce n'est pas pour le hasard que nous passons par des épreuves. Ce n'est pas pour rien. Jacques chapitre 1 et le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Encore une fois, la patience, le perfectionnement est mentionné au même verset que l'idée de passer par des épreuves. Il y a une association qui existe entre nos épreuves et ce processus de perfectionnement. Ceci dit, nous pouvons provoquer aussi des épreuves avec des mauvaises décisions de notre part. Ce n'est pas la méthode recommandée, bien sûr, pour apprendre de nos épreuves. Il y a d'autres moyens, d'autres possibilités. C'est beaucoup mieux d'apprendre des épreuves en faisant d'abord de bons choix. Ce n'est pas conseillé d'apprendre des épreuves en faisant des mauvais choix exprès. Le châtiment de notre Père Céleste représente une épreuve avec le but de la correction. Quand on est châtié, Dieu a envie de nous rappeler de quelque chose, de nous changer, de nous corriger. Notre perspective vis-à-vis du châtiment est très importante, car nous risquons de passer à côté des leçons importantes. Si nous avons une mauvaise attitude, nous n'allons pas apprendre les leçons prévues de certains châtiments, de certaines épreuves. Il faut toujours considérer que Dieu agit avec amour. Apocalypse chapitre 3, le verset 19, nous explique que « Moi, Dieu, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Le châtiment est associé avec le repentir est associé avec le changement de direction, le changement de notre vie. Le châtiment de Dieu est une manifestation de l'amour de Dieu. Attention, il est trop facile à perdre le zèle quand on est châtié. Il est très facile à perdre le zèle quand on passe par des épreuves difficiles. En conclusion, la vie chrétienne nous efforce à changer pour le mieux. Ça devrait être un changement durable, qui durera à jamais. Nous avons les exemples de la semence qui tombe dans des endroits pierreux, et les racines ne sont pas là. Le changement est visible pour un temps, et puis après, disparaît. C'est dans la parabole du semeur. Il y a aussi l'idée que la semence tombe dans les épines. Et c'est celui qui entend la parole, mais il y a des soucis de ce siècle. Il n'a pas la possibilité de quitter ce siècle. Il est trop séduit, trop associé, trop incorporé avec les richesses. Et ça étouffe, il est écrit. Matthieu 13, ça étouffe la parole et rend à la personne infructueuse. Mais le verset 23, Matthieu 13, 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Le changement que nous effectuons dans nos vies, que Dieu provoque, nous donne la possibilité d'être fructifs, de porter de bons fruits. Nous sommes confortés de savoir que Dieu ne change pas. Il est déjà l'exemple de la perfection. Il n'est pas obligé de changer. Mais considérons l'impact sur nous du fait que Dieu ne change jamais. Considérons ce qui serait le cas si Dieu se décidait, moi je vais changer, je ne vais pas faire ce que j'avais promis à mon peuple, je vais faire autrement. Malachie chapitre 3 sera notre dernier verset d'aujourd'hui. Pour nous rappeler que Dieu ne change pas, et c'est pour un but. Nous pouvons remercier Dieu de sa constance, de sa perfection, de sa promesse de ne pas changer. Malachie chapitre 3 et le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Si j'étais un Dieu qui se décidait, je vais changer, je ne vais pas tenir ma parole, et maintenant je vais tout détruire, les enfants de Jacob auraient été consumés. Et pour nous aussi, c'est la même chose dans la vie spirituelle. Si Dieu ne tenait pas ses promesses, il serait vite à nous consumer, à nous détruire. Parce que nous ne faisons pas toujours le bon choix. Nous avons des erreurs, nous faisons des erreurs, nous péchons encore. Mais nous ne devrions pas vivre dans une vie de péché, dans une vie qui est influencée, contrôlée par ce siècle. Voilà un rappel assez dur, mais très important. Dieu tient à ses promesses. Si ce n'était pas le cas, il nous aurait probablement déjà détruits à cause de notre rébellion contre sa voix. Gardons nos yeux sur le royaume de Dieu et sa justice. Demandons à Dieu de nous montrer toujours là où nous avons besoin de changer pour devenir plus parfait, plus mûr, plus prêt pour l'héritage. Poursuivant sa voie qui mène à la vie, Christ s'en occupe de nos besoins quotidiens. Notre but devrait être de poursuivre sa voie, sa volonté qui mène à la vie. Dans la vie de chrétienne, nous allons voir des miracles. Des fois, les miracles se font instantanément et dramatiquement. Par contre, il y a des miracles qui se font au cours des années et des années. Frères et sœurs, c'est plutôt ce type de miracle, là, que Dieu œuvre en chacun d'entre nous. Le développement à travers le changement de son caractère parfait en nous. Le tombolo que nous avons observé en Martinique se forme et se dissipe chaque année au cours de quelques semaines. Profitons du temps que Dieu nous a donné pour changer. Le tombolo se forme avec un grain de sable à la fois, un par un. Et le résultat est extraordinaire. Un pont de sable qui mène à un bel îlet qui est autrement inaccessible à pied. Alors, frères et sœurs, engageons-nous dans cette vie de changement, même si ce changement se passe petit à petit, comme les grains de sable. Dieu est en train de réaliser quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Gardons au cœur et à l'esprit les miracles que Dieu nous accorde dans cette vie de changement. Nous sommes bénis. Si nous restons engagés dans cette vie de changement, Dieu œuvrera un miracle en nous. L'Éternel nous permettra avec grand plaisir un jour d'entrer dans son royaume.